Notre thème, c'est « Soyez remplis de l'Esprit ». Et il y a énormément à vivre, à comprendre, puisque la vie avec Dieu, ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas des dogmes, ce n'est pas des « il faut, il ne faut pas », ce n'est pas des rituels, ce n'est pas des traditions, ce n'est pas des obligations. La vie avec Dieu, c'est vraiment une vie, c'est de vivre la vie que Dieu vit, la vie que Dieu possède, la vie qu'il est. Cette vie est dans notre vie et c'est à nous de laisser au maximum l'Esprit vivre en nous et développer tout ce qu'il veut nous communiquer, tout ce qu'il veut nous donner. Amen. Je vous aime de tout mon cœur. Si vous n'êtes pas épanoui dans la vie chrétienne, c'est votre problème. C'est de votre faute. Parce que Dieu a fait tout ce qu'il y avait à faire pour que votre vie, elle soit épanouie, qu'elle soit forte, qu'elle soit puissante, qu'elle soit intéressante, qu'elle soit passionnée, qu'elle soit passionnante, qu'elle soit brûlante, qu'elle soit enthousiasmante, qu'elle fasse la différence, qu'elle vous emporte dans toutes sortes de victoires. Dieu a fait par Jésus-Christ et après Jésus-Christ, avec l'Esprit, il a mis à notre disposition, il nous a offert tout ce qui était nécessaire, dit Pierre, à la vie et à la piété. Et moi, je suis resté 18 ans chrétien avec une vie au ras des pâquerettes. Eh bien, ce n'était pas la faute de l'Église, ce n'était pas la faute de ma femme, ce n'était pas la faute de Dieu, ce n'était pas la faute du monde, ce n'était pas la faute des ténèbres, ce n'était pas la faute de la nuit qui s'épaississait, ce n'était pas la faute de mes collègues, ce n'était pas la faute de la police, c'était la faute à Bibi. Parce que tout ça, ça rentrait par là et ça sortait par là. Puis un jour, le Seigneur, il m'a gentiment attrapé comme il sait si bien le faire. Et le jour où j'ai retrouvé tout ça, ma vie, elle a pris une autre dimension. Et Dieu veut que chacune de nos vies ait réellement des dimensions d'épanouissement et de victoire. Dans le livre des Actes des Apôtres, on va relire très simplement au chapitre 2 et au verset 1er. Actes 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Au verset 8, nous lisons même au verset 7, ils étaient tous ceux qui étaient là, tous les juifs qui étaient là pour la fête de Pentecôte à Jérusalem, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle ?» Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, les Juifs venaient très loin pour cette fête, Juifs et prosélytes, Crétois, Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ? Amen. » Aujourd'hui et la semaine prochaine, on va aborder cette question du parler en langue. Parce que si ça a surpris, si ça a étonné tous ceux qui étaient là le jour de la Pentecôte, la foule qui a entendu ces Galiléens parler dans des langues, parler couramment, abondamment, avec une qualité exceptionnelle dans des langues qu'ils n'avaient jamais apprises, ça peut encore aujourd'hui surprendre bien des gens, et non seulement bien des gens, mais ça surprend aussi bien des chrétiens, et ça pose aussi des problèmes à malheureusement beaucoup de chrétiens. Il peut y avoir beaucoup de peur, beaucoup de méfiance, donc on va regarder tout ça ensemble. Et puis, on est aussi tout à fait conscient, je le dis souvent, que si on a le même Seigneur, si on a le même Sauveur, on a aussi le même ennemi, on a le même diable qui nous souffle toujours les mêmes mensonges. Et en termes de mensonges, dans ce domaine-là, le diable est très fort. Oui, tu sais pas ce que tu racontes, c'est du charabia, et puis à quoi ça sert, à quoi ça peut bien servir, et puis tu n'as pas besoin de ça pour aller au ciel, et puis de toute façon, c'est pas pour toi, tu n'es pas assez bien. Et puis, la meilleure que j'ai entendue, c'est « Et si c'était le diable qui répondait ?» Ben bien sûr, parce que quand je prie Dieu, c'est le diable qui répond, c'est tellement logique. Alors j'ai entendu tellement de choses, il y a tellement de confusion malheureusement aujourd'hui, même au sein du peuple chrétien. que j'ai vraiment à cœur de reconsidérer ça tranquillement, calmement, en deux messages, en deux étapes, cette question du parler en langue. Il faut déjà que vous compreniez, frères et sœurs, puisque je parlais de peur et de méfiance, il faut déjà que vous compreniez que le diable fera tout ce qu'il peut pour vous empêcher de parler en langue. Le diable a peur, mais alors sérieusement peur, des gens qui parlent en langue. Parce que lorsqu'on parle en langue, on va le voir au fur et à mesure des messages, lorsque nous parlons en langue, nous ne sommes plus confrontés à nos limites de compréhension, de connaissance, de vocabulaire, de sentiments, d'émotions, le manque de discernement sur des situations qui nous dépassent. Mais là, le diable, il a affaire directement à l'Esprit de Dieu. Et là, ce n'est pas moi qui cause. Ce n'est pas Brion qui raconte ses bêtises ou qui raconte ce qu'il peut, c'est le Saint-Esprit qui parle. Et là, quand l'Esprit de Dieu parle, le diable, il est très, 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 très mal. Et le diable fera toujours tout pour faire peur et pour empêcher de parler en langue, pour vous dissuader d'entrer dans cette dimension de l'Esprit si vous n'y êtes pas encore entré, ou alors de vous arrêter vite fait, bien fait, si vous avez commencé. Combien de chrétiens, malheureusement, m'ont déjà dit « Ouais, mais j'ai l'impression que je répète toujours pareil, alors ben, du coup j'ai arrêté, je ne parle plus en langue. » Non, il fallait continuer, il fallait développer. Et si le diable il peut te faire taire et t'arrêter très très vite, pour lui, ça lui fera moins de problèmes à gérer. Parce que le baptême dans le Saint-Esprit, avec le signe initial du parler en langue, va nous introduire et a introduit les disciples de toute génération dans une dimension de puissance, une vie de puissance. Ils sont passés ce jour-là du naturel au surnaturel. Ils sont passés de l'ordinaire à l'extraordinaire. Et c'est bien ça qui fait peur au diable, parce qu'à partir du moment où je suis rempli du Saint-Esprit et où l'Esprit peut commencer à s'exprimer au travers de moi, je vais par l'Esprit commencer à mettre les pieds sur un terrain sur lequel le diable ne veut surtout pas me voir. Très embêtant pour lui. Et les actes nous montrent un christianisme qui est puissant, un christianisme conquérant, un christianisme démonstratif, un christianisme invincible, des disciples qui sont transformés par la puissance du Saint-Esprit et qui sont enfin capables, je dis bien enfin capables, de poursuivre les œuvres et les enseignements de Jésus. Et ça, pour le diable, ça l'embête, parce que lui, ce qu'il aime, le diable, c'est les chrétiens qui vont à l'église. Oui, il aime bien les gens qui vont à l'église. Il aime bien les gens qui vont à l'église, mais pourvu qu'ils se disputent. Pourvu que dans la semaine ou le dimanche, tu aies trouvé un truc à dire de travers sur quelqu'un. Même si tu ne l'as pas dit, tu l'as pensé. Et pour lui, ça lui suffit déjà, c'est bien. Il n'a pas peur des gens qui vont à l'église. Il n'a pas peur des gens qui sont vides. Il n'a pas peur, au contraire, il aime bien les gens religieux, il aime bien les gens qui restent faibles, il aime bien les gens qui restent vulnérables, il aime bien les gens qui restent craintifs, qui restent incapables. Pourvu que je sois faible, vulnérable, petit, craintif, incapable et critique, mais je peux aller à l'église tous les jours, pour lui c'est pas un problème. Va à l'église, c'est bien, va mon petit. Et surtout n'oublie pas de mettre une casse à ta sœur en passant, en sortant, n'oublie pas de, voilà. Attriste bien l'esprit, vas-y, non. Une, ça ne suffit pas, ce que tu as dit là, va le dire à l'autre aussi, parce que tu auras plus de soutien comme ça. Va le dire à l'autre aussi. Et bam ! Et si l'esprit est attristé, le diable, il est content. Ceux-là, ces chrétiens, ils sont super, je les mène par le bout du nez. Quoi. Mais si on rentre dans les dimensions de vie de l'esprit, là, on commence à être sérieusement dangereux pour son royaume. Alors, on va réétudier tout ça ensemble. Le parler en langue, il faut le comprendre, c'est premièrement le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est la preuve que nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. C'est un signe audible, un signe visible, plutôt audible. C'est le signe audible, c'est la preuve unique et irréfutable du baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une impression, ce n'est pas une émotion. même s'il y a des moments, oui, je peux quand même avoir du ressenti. Moi, je me souviens, le jour où j'ai été rempli du Saint-Esprit, la nuit où j'ai été rempli du Saint-Esprit, je n'ai pas ressenti une présence de Dieu si extraordinaire que ça. Je n'avais pas de frissons dans le dos, j'étais pas, il n'y avait rien d'anormal. J'avais juste cette douce, plusieurs comprennent ça, cette douce pression intérieure. Et je sentais que l'Esprit à l'intérieur en moi mettait un peu cette douce pression. Et puis, il y avait dans mon être intérieur, il y avait une langue à l'intérieur, là ça venait pas de la tête, ça venait du cœur. Il y avait des syllabes qui commençaient à résonner intérieurement. Et ce jour-là, ben, je n'ai pas senti des trucs de ouf, hein, excusez-moi l'expression. Il a juste fallu que je croie, parce qu'on va le voir, c'est un acte de foi. Il a juste fallu que je croie, il a fallu que j'obéisse. Et puis que ce que le Seigneur me donnait, j'ai commencé à le dire. Et puis 4 syllabes en sont devenues 8, 8 en sont devenues 16, 16, 32, 32, 64. Après, vous continuez les comptes sans moi. Une langue en est devenue 2, 2 langues en est devenue 3, 4, 5, 6, 7. Et après, il n'y a plus de limite, parce que dans la vie de l'Esprit, il n'y a absolument aucune limite. Les seules limites sont celles que nous allons imposer au Saint-Esprit. C'est une source qui va se libérer de l'intérieur, le parler en langue. Jésus dit bien, en parlant de l'Esprit, il dit à celui qui croira, des fleuves d'eau vive couleront de son sein jusque dans la vie éternelle. Paul dit bien dans 1 Corinthiens 14, on le reverra plus tard, lorsque je parle en langue, parce que ça vient de là, ça vient de mon être intérieur, mon intelligence demeure stérile. C'est-à-dire que Dieu ne se permettra jamais de me dominer, de me forcer. Quand je parle en langue, quand je suis rempli du Saint-Esprit, quand je laisse l'Esprit s'exprimer au travers de moi, je suis acteur avec le Saint-Esprit. Je suis coopératif, je suis participatif, je ne suis pas en transe. Dans le monde des ténèbres, le diable, lui, ne s'occupe pas de savoir si les gens ils ont une volonté ou pas. À partir du moment où ils l'ont laissé rentrer, il va les dominer et les gens ils sont en transe. Et puis les gens ils sont là et vous pouvez venir leur dire ce que vous voulez. Tant que la transe n'est pas finie, de toute façon, ils ne vous entendent pas. Moi, je peux parler en langue n'importe où, n'importe quand, abondamment. Si quelqu'un vient me parler, mon intelligence est totalement disponible. Le Saint-Esprit n'est pas un tyran. Mon intelligence est totalement disponible. Je parle en langue, mais j'entends très bien ce que quelqu'un est en train de me dire. Et je suis tout à fait conscient de ce qui se passe autour de moi. Le parler en langue, désolé, hein, je reprends du bas, parce que je ne sais pas ce que vous comprenez, il y a tellement de mensonges dans le peuple de Dieu. Le parler en langue, ce n'est pas de la transe, d'accord ? Je ne suis pas en transe, je suis juste acteur avec le Saint-Esprit. C'est lui qui s'exprime, puis en même temps, c'est moi qui parle. Hein. Je veux vraiment qu'on puisse comprendre, frères et sœurs, que le parler en langue, le baptême dans le Saint-Esprit, ne se mesure pas aux émotions ressenties, parce que c'est pas pour planer, c'est pas un truc mystique, c'est pas un truc un petit peu dingo pour des rêveurs. Non, c'est simplement un miracle, comme tout dans la parole de Dieu en vérité, et c'est à ce signe miraculeux du parler en langue que l'on reconnaît que quelqu'un est authentiquement baptisé dans le Saint-Esprit. Lorsque on avait vu ce texte, souvenez-vous de Paul qui va à Éphèse, il rencontre des disciples, il leur demande « Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit ?» Ah bon, on n'a jamais entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Il leur reparle du baptême, il les baptise au nom de Jésus, il leur impose les mains, ils sont baptisés dans le Saint-Esprit et ils se mettent à parler en des langues qu'ils ne connaissent pas. Le baptême dans le Saint-Esprit est accompagné, il est prouvé, il est authentifié, il est attesté par le parler en langue. Lorsque l'apôtre Pierre a été chez Corneille et qu'il leur a prêché l'évangile, à Corneille et à tous ceux qui étaient là, alors qu'il n'avait même pas fini de prêcher, le Saint-Esprit est venu, ils ont été remplis, et ils se sont mis à parler en d'autres langues. Et il nous est dit que Pierre était dans l'étonnement de ce que le don du Saint-Esprit était répandu aussi sur les non-juifs, parce qu'il les entendait parler dans des langues extraordinaires des merveilles de Dieu. Donc les langues ont été, pour l'apôtre Pierre, une preuve, ça a authentifié, ça a été une preuve que Corneille et sa maison étaient bel et bien baptisés dans le Saint-Esprit. Et puis quand les autres apôtres ont attrapé Pierre, Pierre va raconter comment le Seigneur l'a convaincu d'apporter l'évangile aux non-juifs, et il dit, ils ont été remplis du Saint-Esprit, acte 11-15, et il dit, comme pour nous au commencement. Ça a été comme pour nous au commencement. Le Saint-Esprit est venu et ils ont parlé abondamment dans des langues qu'ils ne connaissaient pas. Ça va, vous êtes toujours là ? On continue ? Un point très important Je sais que tout ce que je dis là, c'est hyper simple, mais il faut que ce soit clair pour tous. Et en plus, n'oubliez pas que tous les messages vont sur Internet. Le parler en langue, oui, c'est bête, on parle bien de langues. Des langues qui sont claires, qui sont distinctes, qui sont reconnaissables. Désolé, mais ça ne m'intéresse pas. Le baptême dans le Saint-Esprit, le parler en langue, ce n'est pas une excitation. D'accord ? Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est vraiment l'Esprit qui s'exprime au travers de moi et il va me communiquer des langues qui sont claires, qui sont distinctes, qui sont reconnaissables, qui sont compréhensibles par certains. Évidemment, pas par celui qui va les prononcer. Mais c'est reconnaissable et c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Et ces langues, c'est ce que dit Paul en 1 Corinthiens 14, 22, ces langues sont un signe pour les non-croyants. Puisque tous les juifs qui étaient là du bassin méditerranéen, ils avaient été dispersés. Et puis ces juifs qui avaient été dispersés, ils avaient pris la culture avec les générations. Ils avaient pris la culture et la langue des pays dans lesquels ils étaient. Donc on en a un petit peu la liste. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Phrygie, la Pamphylie, etc., etc. Et tous ces juifs dispersés qui, avec les années, avaient pris la langue de ces pays, la culture de ces pays, montent à Jérusalem à la fête de la Pentecôte, et la surprise, ils ont une bande d'illettrés, parce que les Galiléens, aux yeux des Judéens, aux yeux des autres, sont une bande d'illettrés, ils sont connus pour être des gens tout simples, qui n'ont pas un savoir extraordinaire, ils sont incapables déjà de parler galiléen comme il faut, sans accrocher le français, excusez-moi, je fais un parallèle, ils ne sont même pas capables de faire trois phrases sans faire une faute de français. Comment est-ce qu'ils font pour parler toutes ces langues ? Et les parler dans une absolue perfection. Et du coup, c'est un signe pour les non-croyants, et c'est pour ça qu'il est dit, mais comment les entendons-nous parler dans notre propre langue à chacun ? Ils sont en train de parler parfaitement une langue, la nôtre, qu'ils n'ont jamais appris. Et tu reconnais ça ? Ah oui, ça c'est ta langue. Mais ça, et tu reconnais ? Ah oui, mais il parle ta langue. Attends, il n'a jamais été à l'école. Et lui, il parle ta langue. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est un signe pour les non-croyants. Et que des gens aussi simples, sans instruction, puissent parler ces langues claires, distinctes, reconnaissables, eh bien, c'est évidemment, c'est le point suivant, c'est logique, c'est un pur miracle. Et là, je ne comprends pas les chrétiens qui ne comprennent pas. Parce que quand on dit aux chrétiens, le Dieu du ciel, alors que du néant il n'y avait rien, il a dit, il a créé, et le ciel et la terre sont nés par sa simple parole, tout le monde dit, ah ouais, amen, hein, Dieu est créateur. Hein, ouais. Et Jésus, par sa simple parole, le boiteux se lève et il marche, ah oui, 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 amen, amen. Et Jésus, par le Saint-Esprit, a été ressuscité, il amène le troisième jour, ah oui, oui, amen, amen. Tout le monde est d'accord. Il y a des chrétiens, ils acquiescent tous les miracles de la Bible. Puis quand on leur parle du parler en langue, ils font... Donc ils n'ont pas de problème à ce que Dieu, par une parole, ait créé l'univers. Mais quand on leur dit, tu sais, le Saint-Esprit, si tu veux simplement te soumettre à lui, si tu veux être partenaire avec lui, il va faire des choses extraordinaires. Se parler en langue est un pur miracle. Ben là, les chrétiens, ils commencent à réagir, puis ils disent, oh là là, on ne sait jamais, ça vient peut-être du diable, cette histoire. Hein. Ben pendant que vous y êtes, hein, c'est peut-être le diable qui a ressuscité Jésus, hein, on ne sait pas. Hein. C'est un pur miracle. Mais comme tout dans la Bible, qu'est-ce que ça a de surprenant ? À la limite, c'est même pas surprenant. C'est juste un miracle. Et quand vous lisez l'Écriture, frères et sœurs, je m'excuse, mais de la première à la première page, soit c'est Dieu, soit il faut tout remballer et puis il faut aller faire autre chose. Parce que tout de la première à la dernière page est une succession de choses plus folles les unes que les autres. Tout est une histoire de miraculeux. À chaque page, le Dieu du ciel s'investit dans les affaires des hommes par le moyen de la foi et il amène toujours des choses miraculeuses, extraordinaires, au point qu'un jour, quelqu'un déclare dans la Bible « Mais finalement, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel ?» Ben non, finalement, il n'y a rien d'étonnant parce que tout est miraculeux avec Dieu. Alors il fallait que ce jour-là, il fallait un signe fort. On pourrait se demander, ouais, mais ce miracle-là, mais finalement, pourquoi ce miracle-là ? Il fallait un signe fort. Il fallait une marque, comme un sceau. Il fallait une marque indéniable. Il fallait du jamais vu. Il fallait, parce que Dieu ne fait pas du réchauffé, il fallait du jamais vu pour attester l'authenticité du baptême dans le Saint-Esprit. Et il fallait aussi, en plus d'une marque claire, nette, précise, il fallait aussi quelque chose qui soit assez fort pour capter l'attention. Et là, pour capter l'attention, ça a super bien marché, hein. Alors, il y a des chrétiens, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils aimeraient comme signe pour être baptisés dans le Saint-Esprit ? Je ne sais pas, peut-être il y en a, ils aimeraient avoir des auréoles super géantes, vous voyez, comme ça. Là. Oh, c'est quoi le truc blanc qui brille là-bas au-dessus de la dame ? Oh, c'est une chrétienne, elle va au centre évangélique de Manosque, elle est baptisée dans le Saint-Esprit. Elle a une... Je ne sais pas, peut-être qu'ils voudraient avoir une récompense suprême. Oh là là, j'aurai plus jamais de problème. Je suis baptisé dans le Saint-Esprit, j'aurai plus jamais de problème. Ah ben, si tu es baptisé dans le Saint-Esprit, je te garantis. Tu vas avoir de l'opposition comme jamais tu en avais eu avant. Hein. Puis là, tu vas être obligé de parler en langue, je te garantis. Je sais pas, vous voudriez quoi ? Des super pouvoirs ? Ah, c'est quoi les gens qui retournent les voitures à main nue là-bas ? Ah, ils sont remplis du Saint-Esprit, ils soulèvent des voitures. Non, mais tu t'es pris pour Samson ou quoi, là ? Qu'est-ce que vous voulez ? Il fallait un signe fort, il fallait quelque chose qui me rende acteur et participant, coopératif avec l'Esprit de Dieu. Il fallait quelque chose qui atteste que ce n'est pas de l'imaginaire. Il fallait pas de la rêverie, il fallait pas du délire. Il fallait quelque chose qui atteste que ce n'était pas de la rêverie, ce n'était pas du délire, ce n'était pas le délire de quelques illuminés d'un instant, mais que c'était bien Dieu le Saint-Esprit qui était là. Lorsque Jésus est sur la terre, tout ce que Jésus enseigne, sa parole, est confirmé par les miracles. Ok ? Le miracle, en grec, le mot miracle signifie littéralement signe. C'est un signe qui atteste, qui authentifie Jésus-Christ comme Fils de Dieu, Jésus comme Sauveur, Jésus comme Seigneur. Ce sont des signes qui confirment que ce que Jésus dit être est bel et bien vrai, que c'est bien la vérité. Eh bien, il fallait un signe pour attester que le Saint-Esprit, c'était bien Dieu sur la terre. Il fallait un signe fort, il fallait un miracle, un signe pour confirmer que c'était bien Dieu, le Saint-Esprit sur la terre. Et que c'est bien le Saint-Esprit, que c'est bien lui qui est là sur la terre pour prendre la suite de Jésus. De nouvelles langues. J'ai mis des langues, tiens j'en profite, je mets juste une petite parenthèse. Des langues claires, distinctes, reconnaissables. Tout est au pluriel. Jésus avait promis, ils parleront de nouvelles langues au pluriel. Ce jour-là, ils se mirent à parler en d'autres langues au pluriel. Des langues variées, une multitude de langues, des langues complètes, pas seulement deux, trois mots. Si je suis bloqué à deux, trois mots, ben c'est parce que c'est moi qui bloque. Si je suis bloqué à deux, trois mots, c'est parce que c'est moi qui n'ai pas pris le temps de développer ce que le Seigneur, dans sa grâce, m'avait donné. Des langues différentes, complètes, reconnaissables, distinctes et claires. Pourquoi le parler en langue ? Il fallait déjà un signe fort, comme je vous l'ai dit. Et puis, on a vraiment besoin, frères et sœurs, ça c'est une grosse lacune de l'Église en général, on a besoin de comprendre quelle est la puissance de la parole. Dans le monde spirituel, l'arme avec un A majuscule, c'est la parole. L'arme avec un A majuscule du monde spirituel, c'est la parole. C'est pas mes efforts, c'est pas ma bonne volonté, c'est pas mon éloquence, c'est pas mon travail, c'est pas mon intelligence, c'est pas ma sagesse. L'arme avec un A majuscule du monde spirituel, c'est la parole. Et il faut que nous comprenions que Dieu est parole. C'est ce qu'il est. Et quand on y réfléchit, c'est tellement logique. Quand on sait tout ce qui se passe dans le monde spirituel par la parole, bien c'est totalement logique que le Saint-Esprit, puisqu'il fallait un acte clair, net, précis, en plus du jamais vu, puisque Dieu ne fait pas de photocopie, et que c'est effectivement l'arme spirituelle du monde spirituel, ben, il fallait simplement, oui, finalement, le parler en langue, ben, ça ne me surprend plus, moi je trouve ça très logique au final. Regardez, lorsque le diable vient tenter Jésus au désert, excusez-moi, on va parler comme les jeunes, hein. Comment est-ce qu'ils se sont faillités ? Ils avaient des épées ? Ils ont sorti des frondes ? Ils ont fait quoi ? C'était par la parole. Le diable, parce que sa parole aussi, à lui, elle est puissante. Elle n'est pas toute puissante, mais elle est puissante. Le diable, il est venu et il a parlé à Jésus. Et comment est-ce que Jésus a mis le diable KO ? Ben, il lui a parlé. Mais c'était un dialogue, c'était par la parole. Il n'y a pas eu d'affrontement physique. C'était par la parole. Et ce que Jésus a dit, ça a suffi à mettre le diable KO et ensuite il s'est retiré. Dieu est parole. Sa parole est, est-ce que je peux comprendre que sa parole est toute puissante ? Sa parole est créatrice. Sa parole est libératrice. Sa parole est autorité. Il dit et du néant, la chose existe. Comment est-ce que nous sommes nés de nouveau ? Nous sommes nés de nouveau par l'action de la parole et de l'esprit. C'est l'action conjointe qui nous a fait naître à la vie de Dieu. D'accord ? La foi qui est si précieuse, qui est si puissante, tout passe par le canal de la foi. Elle vient de quoi ? De la parole, mais avec Dieu, tout est parole. Lorsque Jésus dit à un démon, vous prenez n'importe quel récit dans les évangiles, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant, il n'y revient plus. Ben, » le démon, il sort, il ne revient plus. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jésus ? Il l'a extirpé de force. Non, il lui a dit, puis il est sorti. J'ai relu cette semaine un témoignage qui m'a vraiment marqué d'une chrétienne qui, avant d'arriver au salut, était possédée. Et alors qu'elle était possédée, elle vient dans une réunion d'une église évangélique. Ce n'est pas une luberlue, hein, c'est une femme qui est forte et qui est établie dans la foi, de qui on rend un bon témoignage. Et cette femme, lorsqu'elle vient, elle s'approche parce que le pasteur a dit « Venez, voilà, je vais prier pour ceux qui le veulent. » Et elle vient parce qu'elle sait qu'elle est possédée, elle sait qu'il y a quelque chose qui doit sortir d'elle. Et au moment où le pasteur prie pour elle, il sent qu'elle est démonisée et il lui dit « Au nom de Jésus, sortez !» Et elle, parce que les gens qui sont possédés peuvent entendre des voix. Alors attention, hein, parenthèse, les gens qui entendent des voix ne sont pas tous possédés. Il y a des gens, ils sont juste malades, d'accord ? Il n'y a pas des démons partout. Je ferme la parenthèse, soyons sages. Mais ça arrive que, oui, les gens qui sont possédés, ils vivent toutes sortes de choses surnaturelles, franchement flippantes. Et cette femme, elle entendait des voix. Et au moment où elle entendait vraiment des voix distinctes en elle. Et au moment où le pasteur lui dit « Au nom de Jésus, sortez !» Elle entend, elle témoigne plus tard, une fois qu'elle est baptisée, remplie du Saint-Esprit, enfant de Dieu, elle témoigne, elle dit « Ce jour-là, j'ai entendu deux voix en moi. » La première voix a dit « Pourquoi est-ce qu'il faut que je sorte ?» La deuxième voix a dit « Parce qu'il l'a dit, on n'a pas le choix. » La puissance de la parole prononcée par le Saint-Esprit, qu'elle soit en français ou en langue. Amen. Lorsque Jésus dit à Lazare qui est mort dans son tombeau depuis 4 jours, Lazare sort, il a dit une parole. Et au moment où il dit la parole, l'esprit rentre dans le corps de Lazare et il lui redonne la vie et le mort sort. Ok. Mais Jésus, il ne l'a pas touché, il ne lui a pas fait des massages cardiaques, il n'y a rien eu de physique, il n'y a rien eu de matériel, il n'y a pas eu d'humain. Il y a une parole et par cette parole toute puissante, la vie est revenue dans le corps de Lazare. Lorsque des lépreux viennent devant Jésus, « Maître, si tu veux, tu peux me rendre pur. » Je le veux, sois pur. Il est guéri, même les enfants y comprennent. C'est simple, c'est la puissance de la parole. Lorsque Jésus dit, « Tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel. » Et inversement, comment vous liez-vous ? Vous faites quoi ? Vous sortez les chaînes du coffre de la voiture ? Que vous allez lier quoi, qui, où, quand, comment ? Mais c'est par la parole. Et c'est là que la dimension de vie de l'esprit en moi va être extrêmement puissante. Et parce que le Saint-Esprit, et Dieu le Saint-Esprit, et ce qu'il est, et ce qu'il apporte au travers du parler en langue, est réellement puissant, même tout-puissant. Alors, la parole de l'ennemi aussi, bien sûr, on le sait, elle est puissante. Lorsqu'il vous souffle des mensonges à l'oreille, il arrive à dissuader les uns et les autres. Il nous tient liés avec des mensonges, avec des paroles qui ont été mises sur des vies depuis des années, etc., etc. On est si prompt à écouter les mensonges du diable, mais quand le Seigneur il nous dit quelque chose, ah ben, on va voir, on réfléchit. Le diable, frères et sœurs, n'a aucun pouvoir sur vous. Vous êtes chrétien, vous êtes né de nouveau, vous appartenez à Jésus-Christ, vous n'êtes peut-être même pas encore rempli du Saint-Esprit, ça va venir par la foi, Seigneur, fais-nous grâce. Okay ? Mais vous êtes chrétien, vous êtes né de nouveau, vous appartenez à Jésus, le diable ne peut rien contre vous. L'apôtre Jean dit « Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas ». Et comment il fait pour nous malmener comme ça ? Ben parce qu'on est toujours en train de l'écouter. On a une oreille comme ça sur les autres, sur l'ennemi, sur ceci, sur cela. Puis quand il s'agit de la parole de Dieu, ah, notre écoute, ah, oh, je ne sais pas. Le diable a le pouvoir que nous voulons bien lui laisser en l'écoutant. Allez, nos paroles à nous, elles ne sont pas puissantes aussi. Quand la Bible dit « la vie et la mort sont au pouvoir de la langue », Proverbe 18, « la vie et la mort sont au pouvoir de la langue ». Mais là, il s'agit de la langue humaine. Hein. On n'est pas du monde de Dieu ou du monde des ténèbres. C'est la langue humaine. Avec vos paroles, vous pouvez soit construire quelqu'un, soit le détruire. Puis le pasteur, 30 ans après, il est encore en train de recoller les morceaux. Hein. Ma langue, c'est un potentiel de foi, mais c'est un potentiel d'incrédulité. Avec une parole, vous pouvez consoler quelqu'un, vous pouvez l'édifier, le construire, mettre du baume dans son cœur. Ou alors, vous pouvez le casser pour la décennie à venir. Hein. La langue a un potentiel extraordinaire. Je l'ai déjà dit, j'aime beaucoup ça, ça m'a toujours surpris. En hébreu, le verbe parler et le verbe créer, en réalité, c'est la même racine. Toutes mes paroles produisent quelque chose. La parole crée, la parole engendre, du bon ou du pas bon, mais tout ce qui sort de ma bouche n'est pas anodin. Il y a forcément des répercussions, il y a forcément des conséquences. Et le problème numéro un de l'être humain, c'est quoi ? C'est pas son portefeuille. Le problème numéro un de l'être humain, c'est sa langue. Jacques 3,7. Jacques dit ceci. Toutes les espèces ont été domptées par la nature humaine. Sur cette terre, l'homme s'est tout assujetti. Toutes les espèces ont été domptées par l'être humain, par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Aucun homme ne peut la dompter. Et quand tu parles en langue, tu acceptes de céder ton membre le plus dur, le plus indomptable, le plus puissant, le plus problématique. Le problème, frères et sœurs, ce n'est pas votre cerveau. C'est pour ça que mon intelligence demeure stérile. Le Seigneur, il n'a pas besoin de votre cerveau. Ce n'est pas ça le problème numéro un de l'être humain. Le problème de l'homme, ce n'est pas son cerveau. Le problème de l'être humain, c'est sa langue. Et quand je parle en langue, j'accepte de céder mon membre le plus puissant et le plus indomptable à l'Esprit de Dieu. Et là, c'est l'Esprit qui s'exprime au travers de moi. On le reverra la semaine prochaine. Oui, c'est bien toi qui parles, mais c'est lui qui s'exprime. Et il y a vraiment un abandon total. C'est un acte de confiance. Je l'ai mis en bas, bon, excusez-moi, j'ai peut-être interverti les deux trucs, de toute façon, tout est interdépendant. C'est un acte de foi, je termine avec ça, c'est un acte de foi. Il y a un abandon total, un acte de confiance particulier au Saint-Esprit qui dit « Seigneur, ma langue, je sais que c'est super puissant, mais que c'est un super problème. » Alors, ok Seigneur, je vais parler, toi tu vas t'exprimer. Et j'accepte d'arrêter de me mêler de ce qui ne me regarde pas. Parce que ce qui est génial, c'est que quand tu parles en langue, c'est le seul moment où tu es sûr de ne pas dire de bêtises. C'est le seul moment où tu ne dis pas de méchanceté. C'est le seul moment où tu n'es pas en train de t'apitoyer sur ton triste sort. C'est le seul moment où tu n'es pas en train de flinguer quelqu'un. C'est le seul moment où tu n'es pas en train de dire des bêtises. Parce que là, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Et je sors des limites naturelles. Oui, j'aime le Seigneur, je le loue. Mais tout ça, on verra la semaine prochaine. Mais je suis toujours confronté à mes limites de volonté, de sentiments, de compréhension. Même les simples limites de mon vocabulaire. Ça vous est jamais arrivé ? Par moment, d'avoir un minimum de révélation dans le cœur, puis dire « Seigneur, mais t'es tellement grand, mes mots, ils sont rien !» Ouais, mais les mots de l'esprit, ils sont quelque chose. Et quand on est en train de prier, quand on est en train d'intercéder, on est là, on se dit « Mais Seigneur, mais finalement, cette personne, oui, bénis-la. Qu'est-ce que je demande pour cette personne ? Guéris-la, bénis-la, exauce, donne, agis, fais, encore, bénis, donne, exauce, agis, fais, bénis, encore, donne, agis. » Qu'est-ce que je demande pour ces gens ? Il y a des moments, je ne sais pas. Paul aux Romains dit, on ne sait pas ce qui est convenable de demander. Mais l'Esprit, il le sait, lui. Parle en langue. Arrête de réfléchir, parle en langue. Arrête de réfléchir, parle en langue. Arrête de réfléchir, parle en langue. Voilà, et le Seigneur, il va faire son œuvre. C'est un acte de foi permanent. Jean 7, 38. Jésus dit « Celui qui croit ». Et là, dans le verbe original, c'est un présent continu. C'est une façon d'être. Ce n'est pas de croire une fois. Celui qui continue de croire, littéralement. Celui qui croit en permanence. C'est un présent continu, comme il peut en avoir en anglais. Un présent continu. Celui qui croit en permanence. Celui qui continue de croire, des fleuves vont couler de son sein jusque dans la vie éternelle. Ça signifie qu'il y a des choses qui vont démarrer d'ici par l'Esprit de Dieu, ça va jaillir, ça va sortir, et tout ce qui va jaillir par l'Esprit aura des répercussions dans la vie éternelle. Et quand je parle en langue, je suis en train de construire le royaume de Dieu, je prépare l'éternité. Wow. C'est trop beau, je suis bien d'accord. Jésus avait dit en Marc 16, parce que c'était l'accomplissement de la promesse, vous l'avez là et là, c'est pareil, c'était l'accomplissement de la promesse, Jésus avait dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ils parleront de nouvelles langues. Alors le parler en langue, le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas l'invention de quelques farfelus, ce n'est pas des illuminés, ce n'est pas le truc des pentecôtistes, ce n'est pas un truc bizarre, c'est la promesse de Jésus. Celui qui croit, celui qui veut bien céder son intelligence, sa raison, la laisser de côté, et puis céder au Saint-Esprit des droits pour qu'il puisse s'exprimer au travers de moi. Il y a des fleuves qui vont couler, et tout ce qui va sortir en langue par l'Esprit de mon être intérieur va avoir des répercussions jusque dans l'éternité. Et là, je ne sais pas trop, est-ce que j'ai loué, adoré, rendu d'excellentes actions de grâce, parlé des merveilles de Dieu ? Est-ce que j'ai combattu ? Est-ce que j'ai intercédé ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps où j'ai parlé en langue ? Je ne sais pas, mais je sais nécessairement qu'il va se passer des choses belles, des choses puissantes, des choses ici-bas et des choses dans l'éternité. Et la semaine prochaine, je vous parlerai un petit peu plus de cet aspect, de tout ce qui se passe lorsque je parle en langue, quand nous parlons en langue. Amen. Oh, je sais pas vous, mais moi j'ai envie d'être un vrai pentecôtiste. Hein. Pas une étiquette, du vrai feu de la Pentecôte. Hein. Alléluia.